28 avril 1912. Choisis le roi. Par la fenêtre de la chambre, Bono les entend. Il n'a pas besoin de les voir. Il sait qu'ils sont là. Couchés à l'abri des talus, planqués derrière les arbres qui bordent la route menant à Paris. Les gardes républicains, les gardes mobiles, les inspecteurs de la sûreté, les commissaires du 13e arrondissement, et même des bidas de l'infanterie coloniale. Il en a rameuté du monde, le préfet Lépine. Probablement tous ceux qu'il a pu trouver avant de sauter dans son auto pour venir ici. C'est une armée qu'il a levée pour coincer un homme seul, retranché au premier étage d'un garage avec un pistolet. Le fumier, pense Bono. C'est bien ça, leur république.
Midi sonne au clocher d'église. Cela fait 5 heures que l'anarchiste Jules Bono est assiégé dans le garage d'un certain Jean Dubois, chez lequel il se cache depuis plusieurs jours. Le chef de la sûreté, Xavier Guichard, a fait tirer des dizaines de salves sur la façade. Les balles ont arraché des morceaux de plâtre et des esquilles de bois. Sans résultat. Vers le milieu de la matinée, Lépine et Guichard ont changé de stratégie. Un lieutenant de la garde républicaine leur a proposé de déloger Bono à la dynamite. Cela leur a paru une bonne idée.
Il fait doux pour une fin avril. Bono est assis par terre, le dos collé contre le mur du fond de la chambre. Par la fenêtre défoncée, il les écoute gueuler et se donner des ordres. Ils ont poussé une charrette de foin contre le mur du garage. Ils vont tout faire sauter. Bono songe que tout ce cirque sera bientôt fini. La mort fait partie de la règle du jeu, se dit-il. Il lui reste 8 cartouches. Ils ne le prendront pas vivant. À 4 pattes, il récupère le matelas du lit. Il l'allonge sur le sol et se glisse dessous. Une armure de tissu et de coton. Une armure dérisoire quand se produit l'explosion.
Novembre 1911. Le Châtelet en brie. Il est 8 heures du matin dans la forêt de Sénart. Le garde forestier remonte une allée de traverse. Pensant surprendre des braconniers, il se met à courir jusqu'à l'allée principale. À une 50aine de mètres, il aperçoit une voiture garée sur le bas-côté. Un homme est en train d'en déshabiller un autre qui gît sur le sol. Le garde s'approche, l'homme se redresse. D'un bond, l'homme saute dans la voiture et démarre en zigzagant sur la terre molle de la route. Le garde se précipite. L'individu, allongé sur le sol, est encore conscient. Il murmure quelques mots en italien et meurt.
Jules Bono roule pied au plancher jusqu'à Moissy-Cramayel, une petite localité près de Sénart, en Seine-et-Marne. Il abandonne la voiture qu'il a volée quelques jours plus tôt à Vienne, dans l'Isère. Au départ, Bono n'avait pas l'intention de tuer Joseph Platano, un Italien avec lequel il a fait un braquage en remontant depuis la vallée du Rhône. C'est juste que, pendant le trajet, Platano a commis une erreur. Il a avoué à Bono qu'il avait 27 000 francs pour monter un commerce. Bono n'avait aucune envie de devenir boutiquier. En revanche, Il avait besoin de fric.
Jules Bonneau a 35 ans et un casier judiciaire bien rempli. Il est fiché pour voies de fait, agression physique et recel de véhicules volés. La dernière affaire dans laquelle il a été impliqué est un cambriolage chez un notaire de Pont-Évêque en Isère, dont le butin est estimé à 25 000 francs. Malgré les efforts déployés, les flics ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. La fiche de Bonneau précise qu'il est anarchiste et qu'il assiste parfois à des causeries populaires organisées dans les locaux du journal L'Anarchie.
Dans l'esprit de Jules Bonneau, le terme d'anarchiste ne veut rien dire. S'il devait se définir, il serait un illégaliste. Un de ces hommes convaincus que la société ne veut pas d'eux et que le crime est une méthode de survie légitime. Bonneau n'a pas de conscience politique. La seule chose qu'il connaît, c'est la misère. Celle dans laquelle il est né le 14 octobre 1876 à Pont-de-Roide, dans le Doubs. Celle dans laquelle il a grandi à la manière des Apaches, ces jeunes SDF vivant de vols, de rapines et de petits boulots dans les quartiers pauvres des grandes villes. Pour ces garçons de la campagne, venus peupler les bidonvilles autour de Paris, la belle époque n'est qu'une cour des miracles assez moche.
C'est sur cette misère que pousse la délinquance. Les agents de la sûreté et ceux de la préfecture de police le savent. Malgré des moyens limités, ils tentent d'assurer un semblant d'ordre dans cette capitale qui compte 2 700 000 habitants. Pour la presse et pour une partie de l'opinion, Paris est devenu un Far West urbain. La question de la sécurité est au centre du débat politique, et avec elle, la modernisation de la police, lancée depuis 1907 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau. Il s'agit de donner aux policiers de nouveaux moyens, des automobiles, des armes automatiques et des postes de téléphone. Il s'agit aussi d'asseoir leurs enquêtes sur des procédures scientifiques. Le criminologue Alphonse Bertillon, engagé par la préfecture de police, travaille depuis des années à la mise au point de techniques d'identification anthropométrique. Sa principale innovation est le relevé d'empreintes digitales. En revanche, sa théorie sur les critères physiques permettant de distinguer un délinquant en observant les traits de son visage est tout à fait erronée.
Que Bertillon raconte des fadaises ne change rien à l'affaire. Pour la presse, Jules Bonneau, avec son air buté, son regard dur et sa petite taille, 1m59, est la caricature du bandit. Quand il lit ce qu'on dit de lui dans les journaux, Bonneau sait qu'il est en sursis dans ce monde. À longueur d'articles, on lui répète que s'il est pauvre, c'est de sa faute. Et que s'il est violent, c'est parce qu'il est né avec une âme d'assassin. La seule chose à faire, pense-t-il, c'est de prendre l'argent où il se trouve. Et tant pis pour le reste. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
Le 21 décembre 1911, Paris, 18e arrondissement. Un peu avant 9h, le démarcheur de la Société Générale remonte la rue Ordener en direction de la station de tramway, située à une centaine de mètres de la banque. Ponctuel comme à son habitude, le garçon de caisse, Ernest Cabi, descend du wagon. Il porte dans sa sacoche les fonds nécessaires aux opérations de la journée, ainsi que plusieurs liasses de titres au porteur. Dans un portefeuille, glissé dans la poche de sa veste, se trouvent 20 000 francs en billets. Ernest Cabi serre la main du démarcheur et les deux hommes se hâtent de rejoindre la banque car ce matin, il pleut.
Bono a garé la voiture le long du trottoir de la rue Ordener, entre la banque, située au 146, et la station de tramway. À côté de lui, dans la berline, il y a quatre types. Le noyau dur de sa bande. Raymond Calmin, dit Raymond la science, Édouard Caroui, dit le rouquin. Deux Belges, dans lesquels il a toute confiance. Les deux autres sont Octave Garnier, un ancien apprenti boulanger, et René Vallet, un mécanicien. Les gars se connaissent depuis des années. Ils se sont rencontrés à Bruxelles. Ils fréquentaient les mêmes réseaux syndicalistes. Ce braquage, Garnier ne le sent pas. En plein jour, avec tout ce monde dans la rue, ça pue la poisse. La bande avait un autre coup en vue, une affaire tranquille. Mais ils ont été obligés d'annuler au dernier moment. Alors quand Vallet a proposé de braquer la Société Générale, Bono a sauté sur l'occasion.
Au moment où Ernest Cabi passe devant l'épicerie située au 152 rue Ordener, un homme, vêtu d'un manteau trois quarts, l'empoigne par le corps. L'agresseur sort un pistolet de sa poche et tire à trois reprises. Le garçon de caisse tombe à terre, près d'une grille entourant un arbre. D'une main, il serre la sacoche contre sa poitrine. De l'autre, il s'accroche à la grille. Le braqueur tente de lui faire lâcher prise. Cabi résiste. Un second malfrat se précipite. Lui aussi tient un pistolet à la main. Il vise dans la direction du démarcheur, mais ce dernier s'engouffre dans la banque pour chercher de l'aide. Le premier bandit tire un couteau de sa poche. Il tranche la sangle de la sacoche. À une vingtaine de mètres, des employés sortent de la banque en courant. Le second bandit tire dans leur direction. Sans toucher personne.
Le braquage est en train de merder. Garnier, qui tient la sacoche, court vers la voiture, Calmin sur ses talons. Ils sautent tous les deux sur le marchepied. Bono écrase la pédale d'accélérateur. La berline décolle du trottoir. Derrière lui, il entend les gens crier.
Au voleur ! Au voleur ! À l'assassin !
Toujours sur le marchepied, Garnier tire deux fois en direction de la foule. Bono vire au coin de la rue de Cloix, qui fait une épingle à cheveux. Il redresse d'un coup de volant. Un mécanicien d'autobus tente de placer son véhicule en travers de la rue pour barrer le passage. Assis à l'avant, Caroui passe le bras par la portière. Il met le mécanicien en joue. Le gars s'immobilise. Il lève les mains en l'air. Bono accélère. Un peu plus loin, d'autres passants, alertés par les cris, tentent de s'interposer. Bono accélère encore. Les badauds se jettent sur le côté. La voiture disparaît dans la circulation parisienne.
Le garçon de caisse, Ernest Cabi, est admis à l'hôpital Bichat, blessé à la poitrine et au cou. Malgré la gravité de son état, les médecins lui sauvent la vie. Dans le bureau du directeur de la banque, le chef de la sûreté, Xavier Guichard, fait le point sur ce braquage spectaculaire en pleine rue. La sacoche contenait 5500 francs en billets et 220 000 francs en bons au porteur. Des titres quasiment impossibles à négocier. Les bandits n'ont pas découvert le portefeuille que Cabi cachait dans sa veste qui contenait 20 000 francs en liquide. Les interrogatoires menés par les agents de la sûreté auprès des voisins et des témoins fournissent des informations confuses. Les bandits étaient deux.
Non, ils étaient quatre. Non, cinq.
La voiture était neuve.
Non.
Non, elle était sale et la peinture était éraflée.
Le volant était à droite.
Non, il était à gauche. La seule chose que les enquêteurs parviennent à établir est que le véhicule a été volé dans la nuit du 13 au 14 décembre à Boulogne-sur-Seine. Les voleurs ont escaladé le mur de la résidence d'un rentier. Ils ont dégondé la porte du garage, poussé la voiture dans la rue, avant de la démarrer au carrefour suivant pour ne pas attirer l'attention.
Le braquage accompli, Bono et ses complices roulent plusieurs heures d'affilée. Ils ne s'arrêtent qu'une fois pour consulter une carte et remplir le réservoir d'essence avec des bidons stockés dans le coffre. En fin de journée, ils arrivent à Dieppe. 180 km presque sans décrocher un mot. Alors que le soir commence à tomber, Bono engage la voiture dans un chemin le long des falaises. Les roues s'enlisent dans la boue. La bande est obligée d'abandonner le véhicule et de continuer à pied. Ils emportent avec eux la plaque d'immatriculation qu'ils balancent par-dessus la grille du casino, pensant s'en débarrasser.
Alerté par un riverain, les enquêteurs de la Sûreté et Alphonse Bertillon n'ont aucun mal à établir que la voiture embourbée est celle qui a servi au braquage de la rue Ordinaire. La Société Générale annonce qu'elle offre une récompense de 10 000 francs pour aider à l'arrestation des voleurs. 10 000 francs, c'est une somme. Soudain, plusieurs habitants de Bobigny se souviennent qu'une voiture en tout point semblable à celle retrouvée à Dieppe est restée du 13 au 19 décembre dans un garage appartenant au mécanicien Georges Detwiller, un ancien militant anarchiste. Les voisins ajoutent que Detwiller est ami avec un rouquin qu'il a hébergé quelque temps avant le braquage.
Quand il ouvre les journaux, le 30 décembre, Bono découvre deux choses. Le juge Gilbert, chargé de l'instruction, a placé Detwiller sous mandat de dépôt à la prison de la Santé. Édouard Carroui a été formellement identifié par des témoins, à la fois rue Ordinaire et à Bobigny. Garnier avait raison. Ce braquage puait la poisse.